On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque soir sur France Bleu pour votre émission de confidence. C'est vous vraiment qui faites l'émission, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. C'est vous qui nous appelez et c'est vous qui venez témoigner sur un sujet qu'on a choisi pour vous. On va parler ce soir de vous, vous qui allez être parents ou qui l'êtes depuis peu ou un peu plus longtemps. Pas pour parler de vos enfants, mais bel et bien de vous et surtout de votre sexualité. Avec l'arrivée d'un enfant, le corps change, le quotidien change, les habitudes changent et fatalement, notre libido, nos envies, nos possibilités d'envie et notre sexualité changent aussi, c'est normal. On va en parler ce soir si vous avez connu une baisse ou un regain de libido, si vous vous posez des questions existentielles sur quand et comment faire l'amour quand on a un bébé, des questions aussi sur votre potentiel érotique, bah oui, on a le droit d'être sexy, même si on est maman, on a le droit aussi de se sentir un peu moins belle quand on vient d'accoucher. Question de femmes et question d'hommes aussi, on se dit tout avec vous au 0810 055 056 et c'est la sage-femme et conseillère Maryse de Varatte qui est notre grand témoin, auteur du livre Le désir après bébé aux éditions Erol. Bonsoir Maryse de Varatte.
Bonsoir Vanessa.
C'est bien d'avoir écrit ce livre sur ce sujet parce que quand on est enceinte, on nous parle de plein de choses, hein, sur la grossesse, sur l'accouchement, sur les premiers mois de bébé, on nous parle très peu de sexualité.
Assez peu, oui. En plus, les femmes, les hommes, juste avant l'accouchement, sont un peu obnubilés par la naissance du bébé, et même si on en parlait, ce serait un peu flou dans leur tête.
Alors pourquoi on en parle si peu, finalement? C'est tabou de se dire qu'on peut faire l'amour quand on devient parent?
Non, déjà les sages-femmes sont là en première ligne pour expliquer aux couples que faire l'amour pendant la grossesse c'est une bonne chose et que c'est possible, sauf si évidemment il y a des contractions prématurées, un col court, etc. Mais au contraire, et ça vaut la peine que ce soit dit, que l'amour sexuel, la pénétration, tenant compte des positions, tenant compte de l'envie, tenant compte du nouveau mode de couple, c'est une bonne chose.
Ça peut faire peur à certaines femmes et à certains hommes aussi de reprendre une sexualité normale, j'ai envie de dire,
après l'accouchement. Pendant la grossesse, beaucoup d'hommes, sans le dire, ont peur de faire du mal au bébé, oui. Mm-hmm. Et cette peur intervient aussi après. Mais pendant la grossesse, le rapport sexuel est un peu craint par les hommes. Et il est important de leur expliquer que le bébé dans une piscine stérile, qui s'amuse bien et qui n'a pas besoin de s'en faire pour tout ce qui se passe autour de lui.
Mais et après l'accouchement, oui. Il y a des femmes qui ont vécu un accouchement parfois difficile, douloureux, traumatisant.
Ah oui, traumatique, c'est sûr. Alors ça, souvent les femmes ne sont pas conscientes qu'elles ont vécu un traumatisme et c'est nous aussi qui devons un peu pointer du doigt le fait qu'il y a eu peut-être un choc, peut-être une frayeur terrible, une crainte de mourir qui fait que quelque chose se bloque à l'intérieur. Et là, c'est souvent après sur l'intimité sexuelle que les choses vont se passer.
Et pour les hommes aussi, hein, parfois, il y a aussi gros traumatisme. Hein, les hommes qui assistent de très, très près, de trop près peut-être à l'accouchement. On va parler de tout ça. Devenir parent, rester amant, la sexualité pendant la grossesse et après l'accouchement, c'est le sujet dont on se dit tout jusqu'à 22h.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Restons amants, même en étant parents. C'est le sujet dont se dit tout ce soir. Nuit blanche, kilos en trop, corps qui a inévitablement changé. Le désir et la sexualité ne sont pas toujours la priorité après la naissance d'un enfant. Le regard des autres mamans, bien sous tout rapport, n'est pas non plus des plus sympas avec les mamans quand celles-ci décident d'être maman, mais sexy en même temps. On a le droit d'être sexy quand on est maman quand même. On parle de tout ça ce soir. L'amour, la sexualité, le couple, les interrogations, les changements, les angoisses qu'on peut avoir quand on attend un enfant, qu'on devient parent. Comment faire pour rester amant? Si vous avez la recette, on est preneur. 0810 055 056. On se dit tout jusqu'à 22h. Avec la sage-femme Maryse de Varatte, auteure du livre Le désir après bébé aux éditions Erol. Et vous abordez vraiment une palette très très large dans votre livre. On parle de l'absence de désir. On parle des césariennes qui font beaucoup de dégâts aussi sur la vision que les femmes ont de leur corps finalement. On se dit on m'a abîmée, je suis moins désirable. Il y a de ça aussi.
C'est difficile de généraliser. Il y a des femmes qui sont très bien avec leur césarienne. Il y a parfois des césariennes qui sont nécessaires, même sans raison médicale, chez certaines femmes. Et puis, il y a des personnes alors qui vivent très très mal une césarienne qui n'a pas été prévue, après une préparation qui a été assez idéalisée, avec une envie vraiment merveilleuse de faire un accouchement par voie basse, avec ou sans péridurale. Et quand là, la césarienne arrive d'urgence, ça peut être extrêmement violent pour les femmes, oui. Ça laisse des traces.
On a peur parfois de refaire l'amour après un accouchement, on se dit, est-ce que je vais pas avoir mal, par exemple? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est maintenant? On n'a pas le guide, finalement, de refaire l'amour après la naissance.
Je peux vous le donner ce soir, le guide. On a peur, et si on a peur, la première chose à faire, et que moi je considère comme un premier geste sexuel entre l'homme et la femme, c'est de regarder le périnée. Je trouve un peu triste que quelquefois les femmes nous disent « ça fait 2 ans que je peux pas faire l'amour à cause de ma suture » et je leur demande « avez-vous regardé la suture ?» Eh bien non. Et le mari « avez-vous regardé la suture ?» Eh bien non. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un espace qu'on regarde pas, qu'on voit pas et qu'on appréhende pas ? Donc regarder le périnée, disons 2-3 semaines après la naissance d'un enfant, très 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 souvent c'est hyper rassurant, c'est, ça détend bien, ça enlève la honte d'avoir été abîmée, ça fait beaucoup beaucoup de bien.
Et puis à la fatigue aussi, le bébé qui prend beaucoup de temps, faut pas oublier qu'il faut se le prendre ce temps pour la sexualité.
Alors pas tout à fait, le bébé prend beaucoup de temps dans les premières semaines, c'est vrai, ça c'est sûr, mais après, il y a quand même un choix un peu qui se fait de laisser tout ce temps pour le bébé, exclusivement pour lui, ou au contraire de se dire le couple parental que nous sommes en train de créer entre nous ne remplace pas le couple d'avant la grossesse. C'est quelque chose de plus large, c'est quelque chose de plus sympa, mais c'est pas un remplacement du couple d'avant, en tout cas j'espère.
On va accueillir tout de suite Lucie qui nous appelle du Bas-Rhin. Bonsoir Lucie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes une jeune maman, hein, maman depuis 1 an seulement. Votre sexualité a changé, Lucie ?
Complètement, oui. Bon, moi, c'était pour moi idyllique pendant ma grossesse. J'avoue, j'étais très demandeuse. Et non, ça s'est très très bien passé malgré le gros ventre. J'ai jamais eu aucune gêne ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, après la grossesse, bon, c'est pas pareil. Et même inconsciemment, moi, je sais que j'en avais moins envie. J'avais juste envie d'être avec mon enfant mais la sexualité. J'avais beaucoup moins ce besoin de rapport charnel avec son papa, avec mon mari. Quoi.
Est-ce que vous en parliez avec votre conjoint, justement ?
Ça a été un petit peu plus délicat. Et puis, bon, j'avoue que je mettais ça aussi sur le fait que j'ai eu une petite épisiotomie. Donc, je cachais ça. Enfin, je cachais pas, mais j'expliquais ça en disant que physiquement, j'étais pas forcément très, très prête non plus. Et puis finalement, c'est revenu entre guillemets à la normale, si je puis dire. Mais c'est vrai que c'était un moment un petit peu plus. Enfin, c'était différent. Voilà.
C'est normal que ce soit différent,
ah,
finalement,
oui,
Marie
oui,
de Larrette.
Lucie, merci du témoignage. Et je trouve sympa que vous disiez que pendant la grossesse, les choses ont pu se faire d'une autre manière peut-être, mais ça a été sympa pour vous, donc tant mieux. Et puis, par la suite, alors oui, il est tout à fait normal que pendant un moment, ce ne soit pas pareil. Et même, ça ne redevient pas pareil. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus la même femme. Vous êtes femme et mère, et puis que votre conjoint, il n'est plus le même homme. Il est homme et père, donc ça nous fait 4 personnes, là, qu'il faut agencer, articuler. Et cette articulation demande un certain temps. Et ça vaut la peine pendant ce temps d'adaptation, parfois difficile, où toutes les cartes de la vie se rejouent un peu entre nous. Ça vaut la peine de ne pas laisser complètement disparaître, ne pas effacer complètement ce dialogue sexuel, qui est un vrai dialogue pour le couple. Ça vaut la peine de ne pas mettre ça aux oubliettes.
Quand vous dites, je prenais un peu l'excuse, entre guillemets, de l'épisiotomie, j'étais pas prête. Votre mari comprenait, Lucie? Il réagissait comment?
Je pense, il n'y a pas eu de souci, ni de tension, ou quoi que ce soit à ce sujet-là, hein, mais je pense qu'il faut peut-être plus préparer les papas à ce changement qu'on subit parce que enfin moi le entre guillemets le manque d'envie n'était pas volontaire, enfin moi j'étais bien avec mon enfant, voilà, j'avais un autre amour entre guillemets et c'est pas par manque d'amour vis-à-vis de mon mari, et puis maintenant c'est bon, c'est revenu à la normale, mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'hommes, enfin j'imagine que ça doit pas forcément être évident à comprendre et évident à accepter non plus.
Vous en entendez beaucoup des hommes, Marie, ce qui vous disent ma femme passe tout son temps avec notre bébé, je n'existe plus, on n'a plus de sexualité. Alors, c'est une revendication parfois de certains papas, de jeunes papas.
Malheureusement, ils le disent assez peu. Ils s'adaptent à la situation, je dirais même qu'ils se suradaptent à la situation, et c'est bien là que c'est un peu difficile après. Les hommes disent peu, ils acceptent, ils ont suivi bien les cours, et puis ils comprennent et puis ils attendent. Et puis quelquefois, ils attendent un peu trop longtemps. Et quelquefois, en attendant trop longtemps, ils deviennent complices d'une baisse de libido dans le couple. Et chacun fait beaucoup passe beaucoup de temps avec l'enfant, passe beaucoup d'énergie dans son rôle de parent, père et mère. Et puis, on se rend compte au bout d'un an ou deux qu'on est un peu séparés tout en étant sous le même toit.
Vous en parlez avec vos copines, Lucie? Est-ce que c'est un sujet tabou entre jeunes mamans, la sexualité après l'accouchement?
Alors, j'avoue que j'en parlais pendant que j'étais enceinte, quand tout était merveilleux. mais c'est vrai qu'après, j'en ai pas parlé, non, effectivement. C'est que ce soit lié à grossesse ou pas, des problèmes de couple de cet ordre, je n'étais pas du genre à m'étaler. Par contre, effectivement, quand tout allait bien, pas de soucis. Mais sinon, non, quand c'est un peu plus gênant, c'est vrai que je garde plutôt pour moi.
Maryse de Varat.
C'est peut-être plus efficace d'en parler si possible avec le conjoint. Les copines, elles vont comprendre, elles vont accepter, elles vont dire pour moi c'est pareil. Mais le plus difficile, c'est d'en parler au conjoint qui lui-même souvent n'ose pas en parler. Et comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à regarder la suture du périnée qui va vous rassurer, vous détendre et vous aider à reprendre des rapports.
Merci Lucille d'être venue témoigner ce soir et merci d'avoir ouvert surtout l'émission. On vous embrasse et on vous dit à très très bientôt. Devenir parent et rester amant. On parle de sexualité pendant la grossesse, après l'accouchement. C'est pas toujours facile d'en parler. Bien, ce soir, on n'a pas tabou, on n'a pas de jugement. Comme d'habitude, on vous écoute vraiment nous parler de votre propre expérience, si ça a été compliqué pour vous, d'en parler justement au sein du couple. J'espère aussi qu'on aura des jeunes papas qui nous raconteront un petit peu comment ça s'est passé pour eux, parce que c'est pas toujours évident non plus pour les hommes qui ne parlent pas beaucoup dans ces cas-là. Et puis, on parle de baisse de libido, on peut parler du rapport au corps qui change aussi, du temps, de l'énergie, de la fatigue un petit peu plus accentuée qu'avant forcément parce qu'il y a un bébé. 0810 055 056, la sexualité pendant la grossesse et après l'accouchement, c'est le sujet dont on se dit tout.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
On a tous le droit à une sexualité épanouie et ce, quel que soit le moment de notre vie et particulièrement quand on devient parent. Devenir parent, c'est vrai que c'est un sacré changement hormonal pour les femmes, un changement tout court, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. On doit jongler avec les couches, les biberons, le manque de sommeil et on en oublierait presque de faire l'amour. Alors que non, si vous faisiez l'amour comme des fous avant, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Bon, ok, ce sera peut-être un petit peu différent, mais différent comment? C'est à vous de nous le dire ce soir sur France Bleu. Je sais que c'est pas toujours évident d'appeler, de se dire, bah voilà, nous ça a été compliqué après la grossesse, on n'a pas fait l'amour pendant un an. Mais c'est important d'en parler, la sexualité pendant la grossesse et après l'accouchement, c'est le sujet dont se dit tout avec vos témoignages d'hommes et de femmes. Je le rappelle, hein, les hommes, vous êtes les bienvenus, les futurs ou les jeunes papas. 0810 055 056. Notre grand témoin ce soir, c'est Maryse de Varat, sage-femme, mais également, comment on dit, conseillère psychologue, voilà, et auteur du livre Le désir après bébé, devenir parent et rester amant, c'est aux éditions Erol. Le désir, on n'en a pas encore parlé, on peut avoir une baisse de désir, c'est normal après un accouchement?
Ah oui, c'est normal d'avoir une baisse de libido et de désir, et c'est normal de ne pas avoir de baisse de désir. Du côté de l'homme, c'est la même chose, il est normal d'avoir une baisse, et il est aussi normal de ne pas avoir de baisse.
Tout il n'y a ça, pas de normes finalement.
Non, enfin tout est bon à prendre. Je veux dire, c'est une réalité, c'est le fait de la personne. Et l'essentiel, c'est de savoir ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on s'énerve? Est-ce qu'on respecte? Est-ce qu'on l'envoie tout péter? Est-ce qu'on essaie de trouver une solution? Voilà.
On n'a pas parlé aussi de tout ce qu'on ne nous dit pas. Enfin, vous avez l'air d'être une sage-femme très ouverte sur le sujet, mais quand on se prépare pour un accouchement, par exemple, quand on se prépare pour l'arrivée d'un enfant, on a un suivi, on va dire classique, on a les échographies, on a les rendez-vous, on a nos prises de sang, on a l'accouchement, la préparation à l'accouchement, mais on n'a pas de préparation à la vie amoureuse à deux après, comme si c'était évident, alors que ça n'est pas tant que ça. Hein.
Je crois que dans l'ensemble, les sages-femmes font attention, mais c'est vrai que tout dépend avec qui vous êtes. Le problème, c'est que les gens souvent n'osent pas bien aborder cette question très intime. C'est à nous, les sages-femmes, de l'aborder, de poser des questions et d'aider les gens à trouver des pistes, oui.
Alors évidemment, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de chiffres, mais la question a été posée tout à l'heure, on l'a entendu dans l'équipe. Combien de temps après on peut faire l'amour après un accouchement? C'est très très dur d'y répondre, mais est-ce qu'on vous la pose cette question?
Alors, en général, de manière pratique, on attend la fin complète des saignements de l'utérus, donc c'est 3 à 4 semaines en tout cas. Après, tout dépend si la femme a une césarienne, donc pas d'épisiotomie sur le périnée, ou un accouchement par voie basse sans suture également. Les faits, la réalité, c'est évidemment tient à l'envie, au désir de la femme, la manière dont elle se sent à nouveau prête à faire autre chose que de penser à son accouchement, de penser à la sortie du bébé par le vagin et de penser aussi à tout ce qu'il faut faire pour le bébé. Donc, en moyenne, on peut dire que la reprise des rapports se situe de manière réaliste entre 3 mois et 1 an, parfois plus.
Ça a augmenté d'ailleurs ce délai ?
Pardon ?
Il a augmenté ce délai, paraît-il ?
Alors, il est possible qu'avec un certain retour à la nature, qui a ses bons aspects, et une certaine concentration sur le bonheur du bébé, son allaitement, il est possible que les choses aient un peu changé et que la place du mari soit un peu plus difficile à trouver, oui.
On va accueillir tout de suite Guy qui nous appelle depuis les Pays de la Loire. Bonsoir Guy.
Oui, bonsoir. Je vous appelle donc... par rapport à l'émission que j'écoute pratiquement tous les jours.
Oh, ben ça nous fait plaisir, ça.
Bonsoir,
merci.
Voilà.
Merci.
Non, c'est une très belle émission. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient l'écouter. Ça enrichirait, puis surtout, ça mettrait beaucoup de choses en place. Moi, mon histoire, en fin de compte, c'est que je me suis remarié il y a 3 ans maintenant, en 2014, avec une femme qui avait 18 ans de moins que moi. J'ai eu une petite fille en 2015. Et puis, la relation s'est arrêtée en 2015, quand on a eu notre bébé, ma femme, c'était son premier, donc du coup... Vous m'entendez, là ?
Oui, oui, on vous écoute, oui. Oui.
C'était son premier bébé, donc du coup, je pense qu'elle voulait la surprotéger. Et puis, du coup, moi, j'étais inexistant, totalement. La nuit, elle l'allaitait, elle s'acharnait à vouloir l'allaiter, ce qui peut se comprendre, parce que, bon, une maman qui n'allait pas... c'est une chose, mais là, elle voulait absolument l'allaiter. Moi, je peux le comprendre et tout, hein, il n'y a pas de souci. Donc, elle voulait l'allaiter, ce qui fait qu'on dormait. Moi, je dormais plus. C'était juste impossible parce qu'après, il fallait la bercer pour qu'elle s'endort. Et puis, j'ai une entreprise, moi, donc du coup, ça devenait compliqué. J'étais de plus en plus fatigué. Je tolérais, puisque l'accouchement, en plus, c'est pas spécialement bien passé pour ma femme, parce que elle voulait pas de césarienne et elle voulait pas d'épisio, ce qui fait qu'il y a eu un déchirement intérieur, ce qui fait que ça a été compliqué pour elle physiquement. Moralement, ça a été compliqué et tout. Et mon coup de gueule, en fin de compte, c'est que j'ai essayé d'en parler à une sage-femme qui m'a jamais donné la parole, en fin de compte.
Vous vouliez parler de sexualité, c'est ça, Guy ?
Non, pas spécialiste. Non, moi, je suis pas du tout là-dedans. La sexualité.
Ah oui, vous vouliez parler de votre femme,
d'avoir un enfant. Ouais. Je pense que la sexualité, c'est pas la priorité. Au contraire, ça revient petit à petit. Là, je parle vraiment de la garde du bébé, de lui donner le biberon de temps en temps. J'avais pas la confiance de la maman, quoi.
Et c'était très compliqué, là, finalement. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de sexualité.
Comme il n'y avait plus de sexualité, parce que forcément, elle avait mal, puisqu'elle avait été déchirée à l'accouchement, et ben, c'était compliqué d'avoir des rapports. Donc, ça durait 8-9 mois sans rapport. Et ça, je vous dis, c'est pas grave, ça. Ce qui compte, c'est qu'on aurait dû se retrouver, et puis qu'on s'est jamais retrouvé, et du coup, il y avait beaucoup d'agressivité entre nous, manque de contact, manque de dialogue, puisqu'elle était convaincue qu'elle avait raison, et puis moi aussi. Moi, j'aurais aimé qu'une sage-femme m'écoute. Et je pense qu'elle a fait une dépression postnatale sans vouloir le reconnaître. La sage-femme l'a accompagnée dans sa douleur et son tempérament de victime, et puis du coup, on a fini par... avec beaucoup d'agressivité, on a fini par divorcer.
Maryse de Varatte, il est très dur le témoignage de Guy.
Oui, merci Guy pour ce témoignage. Vous évoquez beaucoup de choses qu'on peut entendre et vivre souvent par les couples à l'arrivée d'un bébé. Peut-être que je me demande pourquoi vous avez répéter, c'est pas grave la sexualité, c'était pas l'important, c'était pas la priorité. C'est bien dommage. Les hommes peuvent arriver avec leurs désirs, peuvent revenir avec leurs besoins. La sexualité est un besoin naturel et il est un peu dommage de mettre ça de côté. Et si vous avez une sage-femme qui n'écoute que la femme, comme c'est parfois le cas, c'est pas correct. Vous avez le droit de vous faire entendre, vous avez le droit de dire que vous êtes là. Il n'y a pas de raison que le conjoint soit complice d'une baisse total de la libido, parce qu'après c'est plus difficile à reprendre.
L'allaitement et la sexualité, ça a l'air d'être incompatible quand on écoute Guy.
Alors ça n'est pas du tout incompatible, mais c'est un enjeu qui n'est pas facile pour certaines femmes, oui. Il y a des femmes qui ont du mal à combiner le tout, comme si allaiter voulait dire les seins pour mon enfant, voulait dire les nuits pour mon enfant, les jours aussi, je suis fatiguée, je suis épuisée. Et donc si on se laisse aller dans ce sens-là, et c'est pas toujours inéluctable, on peut aussi décider de rester en forme, on peut aussi décider de confier un peu l'enfant, on peut aussi décider de revenir à des moments où seul le couple est là. Et c'est vrai
c'était une bonne idée, Guy, qui disait pourquoi pas des biberons de temps en temps pour avoir un peu plus de repos et puis retrouver sa femme aussi, qu'elle ne soit pas tout le temps en train d'allaiter.
Oui, mais je ne crois pas que la question se pose entre le biberon et le sein, bien que pour certains couples, ça soit comme ça. Et tant mieux si un biberon par jour peut être donné et aide le couple à se détendre. Mais je ne crois pas que ce soit ça. C'est plutôt que, même si on a un allaitement complet, est-ce qu'il est absolument nécessaire de donner tout son corps du côté de la femme à ce bébé? Faut-il donner tout et plus que tout? Et qu'est-ce qu'on fait de l'accueil qu'on fait du conjoint, de sa demande, de sa sexualité à lui?
Ça fait combien de temps que vous êtes séparés, Guy, maintenant?
On est séparés depuis le mois d'août 2016.
Ouais.
Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que en aucun cas, la sage-femme, qui pourtant était soi-disant une professionnelle, a demandé à avoir ma version des choses. J'ai donné le biberon une fois à ma fille en un an.
Oui, vous avez raison que ça c'est une erreur, mais c'est aussi, je pense, une difficulté pour beaucoup de professionnels d'aborder la question de l'homme, la place de l'homme. On est un peu contaminé par nos visées féministes. On se dit que la femme est devant tout, qu'elle doit avoir toute la place. C'est une erreur de nos jours maintenant. Il faut absolument qu'on donne la place, la parole, une vraie parole et une vraie place aux conjoints, puisque on leur demande bien d'être présents et d'accompagner la femme pendant la grossesse. Donc ça peut pas s'arrêter juste à l'accouchement. Tout d'un coup, il n'a plus rien à dire. C'est pas correct.
Et puis on voit les conséquences surtout qu'il y a derrière. Hein.
Bah disons que Guy exprime bien à quel point il trouve ça injuste et moi je suis d'accord avec lui.
Guy, merci de nous avoir appelés. Merci pour votre coup de gueule parce que vous l'avez présenté comme ça au départ et effectivement vous aviez raison. On vous embrasse Guy. Merci et belle soirée à vous. On continue
de
parler de sexualité après la naissance de l'enfant. De la place parfois peut-être un peu trop importante que les mamans donnent à leur enfant et négligeant ainsi le conjoint, le mari, l'amoureux. La sexualité forcément est touchée. On en parle avec vous ce soir. Est-ce que vous avez trouvé ça compliqué de reprendre une sexualité après la naissance de votre enfant? Est-ce qu'au contraire, ça s'est très bien passé? Vous en aviez peut-être même parlé avant. Venez nous rejoindre et venez en parler tranquillement, sans jugement, sans tabou, au 0810 055 055.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
Avez-vous eu une perte de désir pendant votre grossesse ou pendant la grossesse de votre femme? Avez-vous changé après la naissance de votre enfant? Moins de temps, moins d'envie, moins de jeux de séduction, quitte à mettre aussi le couple en danger, parce qu'un couple qui ne fait plus l'amour, quoi qu'on en dise, et quelles que soient ses raisons, c'est un couple fragilisé. Ce soir, pas de tabou, on se dit tout comme on le fait d'ailleurs chaque soir, et on parle de sexualité quand on attend un enfant, quand on a un enfant, comment prendre soin de soi et de son partenaire, comment réveiller la petite flamme, comment on change aussi certaines habitudes, comment on redécouvre le plaisir différemment. On vous attend au 0810 055 056 avec Maryse de Varade qui est notre grand témoin, auteur du Désir après bébé aux éditions Erol et direction le Lot avec Marine. Bonsoir Marine.
Bonsoir.
Alors vous, vous êtes dit, moi je vais appeler parce qu'il y en a marre de taper sur les femmes. C'est pas toujours les femmes qui n'ont plus envie après l'accouchement.
Eh bien justement, oui, c'est vrai que même pendant la grossesse déjà, moi j'étais très demandeuse et ça a bien convenu à mon mari jusqu'à ce que j'ai un ventre qui soit très imposant. Et à partir du cinquième, sixième mois, il me l'a dit, hein, que bah, ça le bloquait un petit peu. Donc, on a fait avec. Hein. De toute façon, j'ai été en menace d'accouchement prématuré rapidement après. Et puis, après la naissance, il m'a aussi expliqué que l'allaitement, c'était compliqué pour lui. Donc moi, j'ai allaité exclusivement pendant 4 mois. Et c'est ça qui le bloquait. Donc c'était plus moi qui étais frustrée, même si par la suite, les choses ont tout à fait rentré dans l'ordre.
Alors comment vous avez géré ça pendant ces 4 mois d'allaitement? Vous avez pris sur vous, Marine? Ou à un moment donné, vous êtes dit, bon, là, j'ai fini d'allaiter, j'ai très envie de mon mari, j'avais lui montré que j'ai très envie de lui. Non, il n'y avait pas de ça aussi?
On a beaucoup discuté et puis on avait des rapports, mais juste moins fréquents. Et c'est vrai qu'il est très franc, hein, donc il dit toujours les choses et il m'a expliqué que pour lui, me voir allaiter toutes les 3 heures, donc finalement presque toute la journée, ça le bloquait un petit peu. Après, j'ai pris mon mal en patience et j'ai quand même décidé de ne pas raccourcir ma durée d'allaitement pour autant. Voilà.
C'est vrai que c'est pas évident, faut quand même le dire, Maryse de Varade, pour un homme de se retrouver du jour au lendemain avec une femme qui est devenue mère aussi. Enfin, ça change, on s'y attend pas forcément. On rentre à la maison, on n'a pas la même femme tout à fait, hein.
Voilà, merci Marine. Je trouve votre témoignage extrêmement intéressant. Il voit l'autre côté des choses. Voilà, cet homme se retrouve avec une femme qui n'est plus la femme d'avant. Il lui faut un peu de temps pour rebondir, il lui faut un peu de temps pour se situer. Et puis il y a cette symbiose mère-bébé tellement précieuse, tellement bien vécue avec l'allaitement qui fait que lui a besoin de temps. Et pourquoi pas? Ce que j'entends, c'est que premièrement, vous avez dialogué, c'est merveilleux. Et deuxièmement, ça ne vous posait pas forcément énormément de problèmes. Vous avez pu rebondir tous les deux par la suite. Et pour moi, c'est ça qui est important.
Puis le dialogue, on entend bien beaucoup de discussions. Beaucoup d'échanges, il faut se dire les choses.
Oui, et puis comme toute période dans la vie, si l'un des deux a moins envie, on peut imaginer autre chose au niveau sexuel, des caresses, la masturbation, des choses que l'on peut faire sans forcément que l'autre s'investisse. Ça ne veut pas dire qu'on renonce non plus. Il y a des sextoys, on peut les utiliser de manière provisoire, ce qui va permettre de bien s'amuser, de bien rigoler, et puis d'attendre que ce soit un peu plus naturel.
En tout cas, ça fait 2 témoignages avec Lucie tout à l'heure, avec vous Marine maintenant, 2 témoignages de femmes enceintes qui disent j'avais très envie de faire l'amour. C'est important de le dire, se dire que la sexualité et l'envie de sexe ne s'arrêtent pas au moment où on tombe enceinte.
Un bon nombre de femmes ont plutôt plus envie pendant la grossesse et d'ailleurs il y a une humidification vaginale qui permet de bons rapports, et puis d'autres pas envie, peut-être plutôt pour des questions aussi de position, de lourdeur, etc. Mais c'est vrai que c'est individuel, l'essentiel c'est que le couple puisse se le dire.
Ça va bien la maison, Marine? Votre petite fille a 5 mois, c'est encore pas mal d'occupations, de boulot.
Mais nous, ça se passe très bien. Et puis, ce que j'expliquais, c'est que on a pris le parti aussi, bon, je ne l'ai pas dit, mais je m'en rends compte, l'un ou l'autre, quand on se rend compte que ça fait un petit peu plus longtemps, 1 semaine, 10 jours, finalement, on se le dit, il faudrait trouver un moment, on va faire un câlin, et puis on se fixe le rendez-vous. Alors, c'est pas forcément, ça paraît pas forcément hyper romantique, mais au moins, je pense que ça permet de pas rentrer dans une pudeur vis-à-vis de l'autre. Parce que moi, j'avais fait ce sentiment-là, comme j'ai eu ma menace d'accouchement prématurée, j'avais plus de rapport à compter du 6e mois de grossesse jusqu'à 1 mois et demi post-grossesse. Donc, c'est 4 mois et demi, mais à la fin, on est presque pudique envers l'autre. Donc, on fait attention à pas laisser de laps de temps trop important aussi.
C'est bien de se dire, allez, on se cale un petit rendez-vous amoureux avec son chéri, avec sa chérie. Comme dit Marine, c'est pas très romantique, mais si on prend pas le temps, on l'aura jamais de toute façon.
C'est possible, et je trouve que Marine touche un point aussi qui est très sensible, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'être dans un 150% de désir pour se mettre à faire l'amour. Quelquefois, c'est l'autre qui approche. Et puis, si on accueille, si on accepte, parce que c'est ça qui est important, de pouvoir accueillir et accepter si cela nous convient à ce moment-là, eh bien, le désir peut se mettre en route. On peut faire l'amour sans désir par moment. Ce n'est pas un drame.
Merci beaucoup Marine d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. Et on vous souhaite plein de bonheur à tous les trois, hein, même si c'est encore un peu rock'n'roll à 5 mois. Mais bon, ça va aller de mieux en mieux. Vous en avez que pour 18 ans. Ça va aller. À bientôt Marine. On parle d'amour, de sexualité, de parentalité. Comment rester amant en devenant parent? C'est vraiment le sujet dont se dit tout ce soir avec vos appels, vos histoires, vos témoignages au 0810 055 056. Est-ce que ça a été compliqué pour vous pendant la grossesse, après l'accouchement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas quand on devient parent, sur la sexualité notamment? N'ayez pas peur, hein, venez nous rejoindre, c'est important de pouvoir en parler en toute simplicité et on le fait jusqu'à 22h.
Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu. avec Vanessa Lambert.
Chaque femme a son histoire et vit différemment sa grossesse et qui plus est la sexualité pendant la grossesse. Certaines vont avoir très envie, plus qu'avant. D'autres auront une sexualité quasi inexistante. Les hommes vont aussi adorer le corps de leur femme quand d'autres auront des réticences à toucher ce nouveau corps de future maman. Alors il y a la grossesse, il y a aussi l'après. Comment se trouver du temps pour faire l'amour quand on a un petit peu moins de temps qu'avant? Comment aimer de nouveau son corps quand celui-ci a été un petit peu malmené, déformé, ausculté dans tous les sens pendant 9 mois. Venez nous raconter votre parcours, vos questions, vos solutions peut-être aussi. 0810 055 056, on se dit tout sur la sexualité quand on devient parent, en compagnie de la sage-femme Maryse Devarat qui est notre grand témoin. Et on va accueillir tout de suite Jean-Louis en Lorraine. Bonsoir Jean-Louis.
Oui, bonsoir.
Alors pour vous, ça s'est bien passé, ça n'a pas changé finalement grand-chose dans votre sexualité?
Strictement rien, en définitive. C'est simple. Je pense pour avoir le remède, on va dire, parfait. Mais en définitive, lorsqu'un couple, il s'entend bien, il s'aime bien avant une naissance, programmé ou pas, hein, peu importe. Hein. À partir de ce moment-là, peu importe, après, bon, la naissance se passe bien ou pas bien, etc. À partir du moment que l'amour était au départ, l'amour reste à la fin.
J'aimerais bien que ce soit aussi simple que ça, Jean-Louis, mais on a entendu quand même des couples qui s'aimaient très très fort et pour qui ça a été compliqué quand même la sexualité après.
Bah, ça a été compliqué pourquoi? Si on réfléchit un petit peu, je vois dans mon entourage, j'ai quand même 55 ans, je suis mon enfant, il a 29 ans maintenant. Moi ça s'est bien passé, pourquoi? Parce qu'on s'aimait au départ, c'est un enfant qui était voulu, etc. Donc c'est un agrément en plus d'avoir un enfant et ça n'a rien changé du tout. Même s'il y a eu des complications, etc., le désir, on va dire, va rester le même derrière. Si les gens comprennent ça, c'est même pas trop mal. Moi, j'écoute votre émission et je me rends compte que, bien souvent, peut-être la femme veut un enfant, mais l'homme ne le veut pas. Ou l'homme veut un enfant, la femme ne le veut pas, etc. Donc, ça crée des conflits et au départ, à la base, ça marchait pas.
Moi, j'entends que vous avez surtout eu beaucoup de chance, Jean-Louis.
Je sais pas, peut-être.
Parce que c'est pas toujours le cas, Maryse Devarat. On peut s'aimer très fort, avoir tous les deux très envie d'un enfant et ne pas retrouver la sexualité qu'on avait avant.
Ce que j'entends surtout dans votre témoignage, Jean-Louis, merci, c'est le fait que vous avez probablement l'un et l'autre désiré rester proches. On désire pas seulement la sexualité, le désir, mais vous avez voulu poursuivre ce lien tellement merveilleux que vous aviez avant et que l'arrivée du bébé ne chamboule pas ce lien conjugal. Et je pense que c'est une belle piste pour tout le monde. On devient parent et donc on crée le couple parental quand l'enfant est là, mais si comme vous, on souhaite rester proche en tant que hommes et femmes dans l'intimité, ça peut se faire et on peut supporter quelque chose, un temps à attendre.
Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Louis, alors sans rentrer dans les détails, mais la première fois que vous avez refait l'amour avec votre femme après la naissance de votre enfant, est-ce que c'est un moment dont on parle avant, qu'on réfléchit, on se dit bon, ça va se passer comment, on a peur, on angoisse un peu?
Vous savez, quand vous avez une complicité et puis après, donc il faut respecter l'autre, naturellement. À partir du moment où l'autre se dit « je suis prête », moi ça a duré pas excessivement longtemps, on va dire, comme on dit, 3-4 semaines, et puis voilà, et puis le désir, il repart comme avant, en définitive, hein, voilà. C'est ça que moi ce que je veux montrer, c'est que quand avant ça marche bien, ça marche bien après. Quand avant ça marche déjà pas trop mal, où il y a des soucis, vous vous trouvez des soucis après, faut pas rêver, hein. Je veux dire, voilà. Après, une femme, je pense, hein, une femme qui va se retrancher derrière son bébé et que déjà, peut-être son amant, son mari, peu importe, ça gagne.
Ne pas trop faire de généralité non plus, Jean-Louis. Non, vous voyez, il y a peut-être des gens qui se sentent un peu...
C'est mon avis.
C'est votre avis. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vous écoutent et qui disent « Bah non, nous, on s'aimait vraiment beaucoup, il n'y avait pas de problème. » Et malheureusement, ça a été compliqué, la sexualité. La première fois, après la naissance, on peut en reparler, Maryse Devarat, c'est pas grave si c'est pas très bien. C'est un peu comme la première fois quand on est adolescent.
Je crois qu'il faut aborder le premier rapport sexuel complet avec pénétration après la naissance d'un bébé comme l'un de nos premiers rapports. Et Et en plus, on y met de l'humour. Je trouve ça plutôt drôle. On recommence à zéro. Le couple recommence à zéro. Jean-Louis nous montre bien que l'homme peut être délicat, attendre, être prévenant. Et il faut à tous les coups utiliser du gel, du lubrifiant, qu'on trouve facilement dans tous les magasins, pharmacies, grandes surfaces. Il faut utiliser parce que la femme a forcément un peu peur si elle a quelques points de suture. Les fantasmes, est-ce que ça va s'ouvrir? Ben non, ça va jamais s'ouvrir. Mais ça reste du fantasme qui gêne un petit peu la relation. Donc, on aborde ça comme un premier rapport et on peut se dire l'un l'autre, si ça fonctionne jusqu'au bout, tant mieux, mais c'est pas sûr. On va peut-être pas aller jusqu'au bout, on essaye, on commence. Si je suis bien, je poursuis. Si je suis pas bien, on fera ça la prochaine fois et tant mieux pour la seconde fois.
Vous parliez de fantasme, il y a aussi cet imaginaire, cet affreux imaginaire qui peut faire peur, se dire, il y a un enfant qui est passé par là, mon corps est déformé, je vais absolument pas sentir le sexe de mon mari. Il y a des femmes qui se posent cette question-là aussi.
Alors, évidemment que le corps de la femme, sur le plan de son vagin, de son intimité. Oui, il faut un peu de temps pour rien.
Mais le corps est bien fait quand même. Hein.
Ah ben le corps est souple, le corps est bien fait. L'enfant arrive dans des tissus mous, très souples, très humides, et on reprend bien son anatomie d'avant avec quelques exercices quand même du périnée. Ça vaut la peine. Et puis voilà.
Mais c'est bien de parler de cette première fois, de se dire que c'est une deuxième première fois peut-être. Moi j'aime bien cette notion.
C'est important que les hommes sachent que le premier rapport, même si la femme est détendue et même si l'homme est très prévenant, est un peu à considérer comme un premier rapport, oui.
Merci Jean-Louis de nous avoir appelé. Bravo, parce qu'on sent bien qu'il y a beaucoup d'amour chez vous, mais ça marche pas à tous les coups, malheureusement. Malgré tout l'amour qu'on y met, malgré toute l'envie qu'on a, ça peut parfois coincer. Et c'est de ça dont nous parlons ce soir. Dans Se dit tout, la sexualité après la naissance d'un enfant. Comment vous l'avez vécu, vous? Ça s'est bien passé, comme Jean-Louis, ou au contraire, ça a été un petit peu plus problématique? On se pose des questions, on a peur d'avoir mal, on n'a pas le temps, on est fatigué, on n'a plus de désir. 0810 055 056 pour nous rejoindre jusqu'à 22h.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
La grossesse n'est pas une maladie, mais c'est clair qu'elle entraîne pas mal de bouleversements, des changements corporels, d'autres qui se voient un petit peu moins. On parle ce soir de sexualité et de parentalité, la sexualité pendant la grossesse, est-ce qu'on en a envie, pas envie, très envie, est-ce qu'on a le droit d'en avoir envie, et puis la sexualité après la grossesse, quand on n'est plus seulement deux amants fous, mais qu'il y a aussi un enfant qui nous prend du temps, de l'énergie. Racontez-nous par quelle phase vous êtes passé, comment vous avez réussi à garder un semblant de glamour, d'érotisme aussi, est-ce que c'est compliqué de se retrouver en tant qu'amant quand on devient parent? 0810 055 056 pour nous rejoindre, comme Déborah qui nous appelle maintenant du Poitou. Bonsoir Déborah.
Bonsoir Vanessa.
Alors vous avez deux enfants de 15 et de 11 ans et vous avez refait l'amour tout de suite.
Enfin, tout de suite en rentrant de la maternité. Alors bon, bien sûr, ça fait 15 ans et 11 ans. Je ne me rappelle plus si c'était le soir même de la rentrée de la maternité ou deux ou trois jours après, mais je me rappelle que c'était dans la semaine même parce que mon compagnon était très chaud, quoi.
Très demandeur.
Très demandeur tout le temps. On faisait l'amour tous les soirs, quoi, de notre vie commune, hein. Et parce que maintenant on est séparés, hein, depuis quelques années. Et il y allait tout doucement et ça m'a pas fait mal du tout, quoi. Hein.
Mais vous en aviez parlé, enfin vous en aviez envie, vous aussi, Déborah?
Oui, parce que moi j'avais toujours envie de faire un mot avec lui, hein. Mais j'avais une crainte que ça me fasse mal. Alors je lui ai dit, mais vas-y doucement, quoi. Hein. Alors il m'a dit, oh, t'inquiète pas, tu me dis si ça te fait mal ou pas.
Oui, c'est un bon réflexe, ça, de pouvoir en parler.
Ouais. Aussi nos auditrices qui vont mettre au monde là prochainement des bébés et qui vont peut-être avoir une épisiotomie, pas avoir peur justement de reprendre une vie sexuelle, quoi.
Ah là, c'est un peu tôt quand même, Déborah. Hein. Enfin, je trouve que juste après le retour de la maternité, ça peut faire mal. Hein.
Ça dépend aussi de la grosseur du sexe, hein, de l'homme.
Ah oui, il en avait un tout petit alors, c'est pour ça que vous êtes séparés. Je rigole, Déborah, je rigole.
C'était pas aussi une coquillette.
Non, on va pas rentrer dans ces considérations-là. L'amour juste après, on s'est regardé un petit peu, Maryse, on s'est dit, oula, c'est chaud quand même. Hein.
Bonsoir Déborah, merci pour votre franchise. Ce que je peux entendre de votre témoignage, c'est que vous n'avez pas du tout pensé à votre suture, à votre périnée, et vous avez pris un très très gros risque par rapport à la suture, parce que vraiment dans les quelques jours qui suivent, c'est pas du tout acceptable. Et même si vous avez un merveilleux mari avec un gros sexe qui vous aime beaucoup et qui veut vous sauter tous les soirs, non, on n'est pas obligé de consentir à ce genre de choses, et ça vaut la peine que les femmes dans ce cas disent non. J'ai envie de soulever aussi autre chose. La plupart des femmes qui ont accouché, qui ont été enceintes, malheureusement, enfin, c'est assez normal, mais ont une certaine crainte en rentrant à la maison, malgré tout, de ne plus être aussi attirante et forcément un peu peur de perdre l'autre, le désir de leur mari et peur que l'homme aille voir ailleurs. Et quelquefois, ça arrive quand même. Donc, cette peur nous met dans une situation un petit peu délicate. Et je crois
genre
que vraiment,
si je fais pas l'amour, il va me quitter. Il y a de ça.
En tout cas, je veux transmettre le message suite à celui de Déborah que non, ne fais pas l'amour dans les jours et les quelques premières semaines avec une suture sur le périnée. S'il n'y a pas de point de suture, c'est autre chose.
Déborah, merci de votre témoignage. Merci d'être venue ce soir sur France Bleu. Et jusqu'à 22h, on continue de parler de tout ça, de sexualité une fois l'accouchement passé. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce que vous trouvez que vous avez été bien informée, justement? On n'a pas tous la chance d'avoir une sage-femme comme Maryse de Varade, qui est notre grand témoin. Mais voilà, est-ce qu'on vous a parlé de sexualité? Est-ce que vous avez pu en parler? 0810 0 55 056. Et puis parfois, c'est le quotidien qui est compliqué, hein, avec l'allaitement, les biberons, avec un rythme de nuit qui est un petit peu haché, beaucoup de fatigue, on se sent pas forcément très bien, très belle non plus. On peut parler de tout ça, on a la possibilité de le faire et vous pouvez le faire comme chaque soir sur France Bleu. 0810 0 55 0 56. À tout de suite.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et nous, on est happy chaque soir grâce à vous. C'est vous qui faites cette émission. On se dit tout, c'est votre histoire, vos témoignages sur un thème chaque soir. Le thème ce soir, devenir parent, rester amant. Nuit blanche, kilo en trop, corps qui a changé. Le désir et la sexualité ne sont pas toujours la priorité après la naissance d'un enfant. Et on en parle ce soir sur l'amour, la sexualité, le couple, les interrogations, les changements, les angoisses qu'on peut avoir aussi quand on attend un enfant, qu'on devient parent. Est-ce qu'on aura la même sexualité? Venez nous rejoindre comme Mansuela qui nous appelle de Lille. Bonsoir Mansuela.
Bonsoir Vanessa.
Vous êtes une jeune maman, hein, vous avez accouché il y a 7 mois.
Tout à fait.
Un petit garçon ou une petite fille?
Non, c'est un petit garçon.
Un petit garçon. Alors vous, la sexualité, c'est compliqué, hein, depuis le retour à la maison.
Oui, tout à fait, parce que justement, je n'ai plus de désir. Parce que lorsque j'ai accouché, j'ai fait une hémorragie, j'ai perdu 1,5 litre de sang, et puis donc je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais je n'ai plus de désir de mon mari, voilà. Et
vous avez eu un accouchement traumatique un peu quand même là, hein, avec
voilà,
une hémorragie.
Ça
peut jouer, ça, Maryse de Varade, d'avoir un accouchement qui se passe pas bien, se dire que finalement on a un enfant, certes, mais ça a été dans la douleur, ça a été compliqué, et que c'est difficile de se réapproprier un corps qui a souffert pour un corps qui doit prendre du plaisir.
Alors l'accouchement traumatique, c'est autre chose que l'accouchement douloureux, hein. C'est un stade de plus. Ça veut dire qu'il y a eu une extrême frayeur pendant la naissance ou pendant la césarienne, où la femme a pu percevoir, mais elle n'en est pas toujours consciente, qu'elle risque sa peau, comme on dit. Et ça, c'est clair que ça donne pas mal de difficultés sur le plan de la sexualité et de l'intimité après. Ça vaut la peine que les personnes qui se sentent concernées par cette situation trouvent un vis-à-vis pour poser ce traumatisme, oui, et que ce traumatisme surtout soit reconnu par le thérapeute ou la conseillère. C'est vraiment important, parce que sinon le blocage sexuel peut durer longtemps, oui.
Parce que là, directement, vous nous en parlez, Mansuela, vous nous parlez pas de sexualité, vous nous parlez tout de suite de cet accouchement, donc on voit bien que ça joue pour vous, hein. C'est important.
Exactement, ça m'a beaucoup marqué. Pendant plusieurs semaines, j'ai fait même des cauchemars à cause de ça. Voilà, et puis ensuite le retour à la maison, avec mon mari, j'ai du mal à retrouver, je ne sais pas si je peux le dire, parce que mon vagin, il s'est élargi. Donc, et puis, voilà, donc, c'est pas pareil avant et après. Donc, tout ça là, ça joue dans ma tête.
Maryse de Varatte.
C'est pas pareil, Manuela, c'est vrai, mais vous pouvez peut-être essayer de reprendre les choses d'une manière assez simple. Est-ce que vous savez, et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, que si vous laissez par exemple votre conjoint vous embrasser au niveau des lèvres, de la bouche, et s'il arrive à vous faire du bien de ce côté-là, est-ce que vous savez qu'en fait, ça fait mouiller les femmes? On peut avoir, il y a un lien direct entre la bouche, le nez et le vagin et le périnée, et quand on est un peu en panne de désir, ça vaut la peine d'accepter un baiser qui va nous réveiller un peu tout cela.
Est-ce que vous avez des gestes de tendresse, tous les deux, quand même?
Si, si, on a des gestes de tendresse, mais moi, je suis naturellement, je mouille naturellement, c'est pas ça le problème, hein, mais c'est que le problème, c'est que lorsqu'il y a la pénétration, eh ben, je ne sens presque rien. Je ne sens presque plus rien.
Là, ça vaut peut-être le coup de voir quelqu'un, hein, Maryse de Varatte.
Alors oui, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a une conjonction aussi avec cet accouchement où vous avez perdu beaucoup de sang et probablement qu'il y a eu une grosse frayeur et il y a quelque chose qui se bloque. Et malheureusement, peut-être vous décidez d'attendre. C'est pas sûr que le temps va aider les choses ou la prévenance de votre conjoint non plus. Ça vaut la peine, je pense vraiment, que vous puissiez connecter, rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir aborder spécifiquement cette question-là, que ce soit un thérapeute, que ce soit une sexologue ou un sexologue. Que, en tout cas, commencez par en parler avec votre gynécologue et s'il ne vous écoute pas, cherchez la bonne personne. Vous devez absolument trouver la bonne personne pour vous, vous confier, pleurer peut-être si c'est nécessaire, de façon à ce qu'on puisse vous aider à réintégrer ce plaisir du corps.
Oui, parce qu'on sent que vous en avez envie. Derrière, on sent qu'il y a quand même de l'envie, donc ce serait dommage de laisser passer ça. Manuela, on compte sur vous, hein. Ne restez pas seule avec tout ça, d'accord?
D'accord, merci beaucoup Vanessa.
On vous embrasse très fort.
Au revoir.
À bientôt,
merci.
Manuela, au revoir. On part maintenant dans le Finistère, rejoindre Myriam. Bonsoir Myriam.
Oui, bonsoir les filles.
Ça va bien Myriam?
Bonsoir.
Oui, 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 très bien. Je suis ravie d'être en direct avec vous.
Bah, nous aussi. Vous êtes maman de deux enfants, c'est ça Myriam?
Oui, mon grand, Félix. J'ai envie de dire bonjour aussi à Vanessa, hein, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Oui, enchantée.
Myriam, vous vouliez nous dire que vous avez trouvé, vous, peut-être, la solution pour retrouver une sexualité après la naissance?
Moi, j'ai pas retrouvé, j'ai toujours continué. Dans le sens où j'ai mis au monde, donc Félix qui a 18 ans et demi, j'ai 45 ans. Bonjour, j'ai 45 ans. Félix a 18 ans et demi, il est né à Pont-l'Abbé dans le Finistère Sud, un des derniers nés à la clinique de Pont-l'Abbé parce que maintenant elle est fermée, parce que maintenant, il faut quand même le préciser, que les maternités de proximité se ferment.
Oui, mais ça c'est un autre sujet Myriam, on va revenir à notre thème qui est quand même la sexualité.
Oui, non mais attends, je reviens s'il te plaît, parce que ça vient dans la considération que donc mon premier à la maternité et mon deuxième, plutôt que d'accoucher dans la voiture ou dans le taxi, j'ai accouché à la maison avec une sage-femme à domicile.
Oui.
Voilà, donc je connais. Et pour parler de sexualité, ce que j'ai moi apprécié au niveau sexuel... J'ai une bonne sexualité. Ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai adoré, comme j'ai allaité, d'avoir des gros seins. Donc du coup, moi, j'ai recommencé la sexualité par la branlette espagnole, la cravate de notaire, comme on dit.
Mm-hmm.
Voilà. Donc ça, j'ai aimé, et mon compagnon aussi.
Oh, vous avez joué. Vous êtes joueuse, voilà, je l'entends, Myriam.
On a joué, on s'est branlé, voilà. Et donc voilà, la sexualité n'est pas forcément... Et j'ai entendu tout à l'heure le témoignage de la dame qui, au bout de 3 jours...
Ah oui, elle avait refait l'amour tout de suite après, oui.
Voilà, elle a eu de la pénétration tout de suite. Chacun son style, certes. Moi, j'ai apprécié justement de découvrir un autre style. L'autre style, c'était de prendre mes gros seins d'allaiteuse, d'allaitante, et puis de branler mon mari... Et puis que lui, il me faisait autre chose.
Donc voilà.
Les jeux, la masturbation, les jeux amoureux, les jeux sexuels, c'est une possibilité, Maryse de Varatte, ouais, évidemment.
Évidemment que la sexualité est très multiple, très variable, et plus on explore de choses, surtout qu'avec le temps, le conjoint, c'est ça qui est un peu intéressant. On va explorer, on va découvrir, on va toujours découvrir. Et bravo pour cette variété de ces plaisirs. Bien sûr que la sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Avoir du plaisir, avoir des gros seins pendant l'allaitement, pourquoi pas? Ça montre à quel point l'allaitement est proche aussi de notre sexualité et il n'y a pas de gêne avec ça.
C'est bien de dire que les seins ne sont pas que pour le bébé.
Oui, et que l'allaitement peut aussi donner du plaisir à la femme d'ordre sexuel. L'allaitement donne un plaisir sexuel à la femme. C'est parfois pour cela, malheureusement, qu'elle ne voit pas tellement pendant cette période pourquoi elle aurait besoin...
C'est vrai ce qu'on dit, il y a un côté presque orgasmique quand on allaite. Ça peut provoquer des orgasmes chez les femmes?
Ça dépend des femmes. L'accouchement peut parfois provoquer des orgasmes, oui.
Et vous, Myriam, ça vous a déjà fait ça, l'allaitement? Un orgasme d'allaitante, pardon.
Je voudrais juste savoir quelque chose. Comme nous sommes à trois, là, en train de discuter, est-ce que quand vous parlez toutes les deux, est-ce que quand je prends position, on entend aussi à la radio?
Ah bah oui, on vous entend, la Myriam.
D'accord, entendu. Ok, ça marche. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais pris d'orgasme à me faire allaiter. Enfin, à me faire téter le téton. Après, par contre, ce que j'ai aimé... c'est que un jour j'étais en gros, comment dirais-je, en allaitant, voilà, le fils était à la maison et que voilà, c'est vraiment sorti et mon mari du coup m'a tété parce que j'en pouvais plus, hein, le téton, enfin le sein était comme du béton, hein, et j'ai apprécié qu'il tète et j'ai pas pris de plaisir sexuel. Après, chacune est différente, on est bien d'accord.
Ben oui, complètement. Et on vous laisse toute la parole, ça c'est important. Il n'y a pas de schéma classique. L'homme qui allaite, qui tète sa femme, pardon, qui allaite. Je me mélange un peu les pinceaux. L'homme qui tète sa femme, c'est un classique. Enfin, ça peut être un jeu sexuel. Maryse de Varatte.
Les sages-femmes transmettent cette information qu'en fin de grossesse, dans les 3-4 dernières semaines, si l'homme met sa bouche sur le sein et titille un peu le sein, la salive est désinfectante et c'est une bonne préparation l'allaitement, ça renforce le mamelon et c'est pas du tout désagréable. Dommage que vous n'ayez pas pris d'orgasme là-dessus. Mais oui, c'est possible et c'est conseillé pas trop tôt dans la grossesse parce que ça peut donner des tiraillements utérins qui font que les femmes ensuite sont un peu confuses, ne savent pas si elles ont des contractions ou pas. Mais la salive, de manière générale, est désinfectante et peut être utilisée avec plaisir par l'homme pour renforcer les seins avant l'allaitement du bébé, oui.
Myriam, merci beaucoup d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. On se dit tout, ça continue pour encore quelques minutes. On parle de sexualité. Ah oui, vous l'avez compris, on parle de sexualité ce soir. Sexualité quand on devient parent, la sexualité après la naissance d'un enfant. Est-ce que vous avez trouvé ça compliqué? Est-ce que vous avez une baisse de libido? Est-ce que vous étiez trop fatigué pour faire l'amour? Est-ce que, monsieur, vous vous êtes dit, je vais attendre que ma femme en ait envie et l'envie a mis du temps à revenir, quitte à ne jamais revenir d'ailleurs. 0810 055 056, on vous attend jusqu'à 22h, c'est On se dit tout et c'est tous les soirs sur France Bleu.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et on parle de vous ce soir, vous qui allez être parent ou qui êtes parent depuis peu ou peut-être un petit peu plus longtemps, peu importe, hein, pas pour parler de vos enfants mais bel et bien de vous et surtout de votre sexualité. Avec l'arrivée d'un enfant, le corps change, le quotidien change, les habitudes changent et fatalement, la libido, les envies, les possibilités d'envie et la sexualité changent aussi, c'est normal. On en parle avec vous ce soir, baisse de libido ou regain de libido, question existentielle sur quand et comment faire l'amour quand on a des enfants, question aussi sur notre potentiel érotique, on se trouve pas toujours très sexy après un accouchement. Venez nous rejoindre, on se dit tout avec la sage-femme et conseillère Maryse de Varatte, auteure du livre Le désir après bébé aux éditions Erol. Et nous sommes avec David dans le Gard. Bonsoir David.
Oui, bonsoir mesdames.
Enfin, c'est bien qu'on ait des hommes et des papas
bonsoir.
Aussi. Ça s'est bien passé pour vous, tout s'est bien passé. La sexualité a été idéale, on va le dire.
De trop même, je dirais.
Comment de ça, trop. De trop?
Mais c'est-à-dire que j'ai 48 ans, ma fille a 18 ans aujourd'hui. Lorsqu'elle est née, c'était forcément du pur bonheur, hein, comme n'importe quel papa, n'importe quel... mon ex-épouse, parce qu'on est divorcé aujourd'hui, a subi une épisiotomie, donc ce qui a été un peu compliqué dans les premiers jours après la naissance.
Normal.
Bah oui, bien sûr. Sauf que bah, y avait un désir qui était encore très fort, très dense et très intense.
De sa part ou de la vôtre ou des deux ?
Des deux.
Des deux, ouais.
Des deux, et donc bah, on arrive à trouver des petits jeux, des remèdes, que ce soit effectivement masturbation, jeu sexuel, enfin bon. Mais en faisant attention à la santé de mon ex-femme, hein, bien sûr,
que ça ne soit pas. C'est-à-dire que pour vous, c'était évident qu'il n'y aurait pas pénétration, David ? Vous vous êtes dit, on va pas jouer à ça tout de suite ?
Ah ben non, certainement pas. La pauvre, elle avait déjà subi cet épisode, on va dire.
Non, mais c'est bien que les hommes en parlent et en prennent conscience. Enfin, je trouve que c'est beau de votre part.
Moi, je trouve ça normal. C'est du respect. Enfin, à mon sens, hein. Et puis, la pauvre, entre guillemets, elle était un petit peu, elle était désireuse, et puis, mais c'était pas possible. Voilà.
Mais c'est bien de le dire, dans les deux sens. De dire aussi, même si on a mal, même si on sait qu'on fera pas l'amour, c'est bien de dire qu'on aimerait bien faire l'amour. Enfin, c'est une façon déjà de réveiller sa sexualité.
C'est merveilleux, quel beau témoignage, oui. Exprimer son désir, son envie, le fait que le corps de l'autre nous attire et qu'on se réjouit déjà de la prochaine fois, c'est beau, c'est un beau dialogue, oui.
Et vous vous souvenez de la première fois où vous avez refait l'amour, mais vraiment, David, quand je dis vraiment, c'est avec pénétration, c'est-à-dire que ce moment-là, il était attendu, visiblement, depuis longtemps.
Franchement, c'était super attendu. Hein.
Ouais.
on a attendu le feu vert de sa gynécologue, qui nous a donc, qui nous a dit, parce que je l'ai accompagné, en disant bon, là, ça va, tout est remis en place, tout, enfin, excusez-moi, les questions, enfin, les côtés techniques. Hein. en nous disant bon, ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Il n'y aura pas de retour de couche, de machin, de. Sauf qu'il y a eu. Bon, donc il y a eu un deuxième, ça s'est passé quoi, peut-être 3-6 mois après, un autre petit bout qui a commencé à pointer son nez, bon malheureusement qui a pas continué, bon, ça arrive, donc elle a subi un curetage, donc même dans ces cas-là, en tant que mari, père, papa, enfin tout ce qu'on veut, il faut savoir être là, parce que c'est pas évident, mais ça nous a pas démonté. Parce que j'ai un garçon qui est plus grand que moi aujourd'hui, qui a 15 ans, et qui est beau comme tout, j'en suis...
C'est normal, c'est le plus beau, David, évidemment. Moi, j'aimerais qu'on...
Non, c'est pas le plus beau.
Non, mais on dit toujours ça, les papas et les mamans sont toujours fous de leurs enfants, c'est normal. Moi, j'aimerais qu'on parle, David, alors au-delà des problèmes physiques, on va le dire, qui sont inhérents à une grossesse et à un accouchement, comment ça s'organise, la vie de couple avec un bébé ? Comment on se dit, tiens... on va peut-être faire l'amour ce soir quand il pleure toutes les 3 heures parce qu'il a besoin de manger. Comment vous avez géré ça, vous, dans votre quotidien ?
Alors, au tout début, dans les premières périodes, c'est-à-dire entre la période du bébé nourrisson, effectivement, bon, moi j'avais un job où j'avais très bonheur, donc c'était maman qui se levait en pleine nuit, qui allaitait, parce qu'elle a toujours allaité deux enfants. Donc là, c'était pas bien évident, mais on arrivait à trouver des moments en fin de soirée, on va dire, peu de temps après le repas, au lieu de regarder la télé comme un vieux couple de cons, excusez-moi l'expression, on pensait plutôt à se faire plaisir à nous. Donc, on prenait du temps pour nous, on discutait, on a toujours énormément discuté, se regarder, se désirer, s'apprécier, et ça a toujours été... franchement, formidable.
On a toujours des excuses pour pas faire l'amour, Maryse de Varat, si on regarde bien.
Je me souviens plus du prénom.
C'est David.
David, je trouve que c'est intéressant de vous entendre dire que oui, sans télé, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ce temps-là peut être utilisé quand l'enfant dort pour autre chose que regarder la télé. Et en plus, la télé fatigue, donc c'est bien certains soirs. Mais si on peut de temps en temps faire autre chose, on a du temps, oui.
On n'a pas abordé le thème aussi, le bébé dans la chambre des parents ou pas dans la chambre des parents ? Parce que faire l'amour avec son enfant à côté, c'est peut-être pas l'idéal non plus.
Ah, les avis sont partagés, je ne sais pas si je vais trancher. En Suisse, en tout cas, les pédiatres nous recommandent d'avoir le bébé tout près, surtout dans le sens de la réaction par rapport à la question délicate de la mort subite. Écoutez, je ne vais pas trancher. Moi, je pense que nous devons garder un œil sur le couple, comment il se retrouve, comment il peut ou non faire l'amour. Et si l'enfant est trop présent, c'est difficile. De façon générale, on peut aussi avoir des rapports doux avec un enfant qui dort à côté. Mais évidemment que normalement, la sexualité est débridée, plutôt un peu sauvage, et tant mieux pour les deux. Et à ce moment-là, l'enfant est ailleurs dans sa chambre, oui.
Et puis, on n'est pas obligé de faire l'amour que dans la chambre et que dans un lit.
Ah ben, il y a la cuisine, il y a la table du salon, il y a l'atelier, oui.
Merci David d'être venu témoigner ce soir dans On se dit tout. Merci pour votre sincérité, votre franchise aussi. C'est bien de pouvoir se parler comme ça, et on le fait d'ailleurs tous les soirs.